aux dépenses de rentrée et aux frais suscités par l'école, le reste, pour elle, le coiffeur ou une veste chaude pour l'hiver, pouvait toujours attendre. Annette avait adopté le petit supermarché de Condat, où elle descendait une fois par semaine, au creux de l'après-midi, parce qu'elle y serait tranquille pour réfléchir, calculer, comparer, reposer ce qui était en trop, barrer au crayon sur la liste, hésiter, supputer. À Condat, Annette se laissa apprivoiser par Eva, l'une des trois caissières qui faisait aussi office de gérante ou de chef. Annette n'aurait pas su quel mot employer vraiment, l'échelle du magasin la déroutait. Pendant ces 9 années d'intermittence en caisse dans le Nord, elle n'avait rien connu d'aussi minuscule que ce hangar gris et beige, planté à l'entrée du gros bourg ou de la petite ville. Là encore, les mots lui manquaient. Eva avait 29 ans, 10 ans de moins qu'elle, avait pensé Annette quand, au sortir du premier hiver, un jeudi gris et doux de fin avril, elle avait surpris dans le magasin désert les trois caissières, Eva, Martine et Monique, tonitruante doyenne, rassemblées autour d'un café et d'une tarte au chocolat piquée en son centre d'une unique bougie jaune. 29 ans, un 29 avril, la jeunesse, et moi le double touron, et 33 ans, la belle Martine, l'âge du Christ, avait précisé Monique en offrant à Annette, qui n'en demandait pas tant, une large portion de la tarte magistrale, chef-d'œuvre de moelleux, de fondant et de saveur confectionnée par Eva, dont, par la foulée, la preste Monique déroula le pédigre complet à l'intention de cette cliente assidue. Toutes trois savaient qui était cette femme, d'où elle venait, où elle vivait et avec qui, et qu'elle avait au collège un fils unique, et que ça ne devait pas être facile tous les jours à Fridières avec la Nicole et les deux vieux, les oncles. Monique fut prolixe autant qu'expéditive. Eva était peut-être en famille avec Annette, dont le fils portait un nom très proche, à une lettre près, allait savoir avec ses noms polonais impossibles, du nom de la mère d'Eva. Annette, loin de s'effaroucher de cette soudaine irruption à Condat, à l'heure du café, d'un passé purul et enfoui, se surprit à écouter les promptes explications de Monique. Eva, rieuse, laissa se dévider l'odyssée de sa mère et la sienne, avant de conclure que, bien que née à Cracovie, elle ne connaissait rien de la Pologne, et trouvait que ça mériterait bien un voyage pour ses garçons quand ils seraient plus grands maintenant que le pays était dans l'Europe. Mais sa mère ne voulait pas entendre parler d'y retourner, même pour un court séjour, comme si elle avait peur de ne pas pouvoir en revenir, alors que ses trois frères et sœurs plus jeunes y vivaient encore, mariés, mère de 2 fils. Installée dans une vaste maison construite par son mari menuisier, Eva éclatait d'une sorte de joie ferme qui, un instant, à son seul contact, adoucissait le contour des choses. Annette, séduite elle aussi, osa confier à Eva, par bribes, que le père de son fils était évidemment polonais, né en France certes, mais d'une famille nombreuse, venue en bloc juste avant la guerre, des environs de Cracovie. Eva avait une petite voisine dans la classe d'Éric, dont elle savait par ce truchement l'étonnante mémoire et la passion pour Lola, la chienne de Fridières. De semaine en semaine, Annette goûta ses rendez-vous informels du supermarché et l'achat qu'elle aussi l'avait travaillé en caisse. Là-haut, dans le Nord, Eva ne faisait pas de commentaires et se souvenait de tout. Plus d'une année après le jour de la tarte au chocolat, à la fin du mois de juin, elle demanda à Annette si elle serait disponible pour des remplacements pendant les congés d'été. Où il ne s'agissait pas de mollir, le canton connaissant entre le 14 juillet et le 15 août un précieux afflux de population. La jeune fille recrutée les années précédentes, étudiante à Clermont, venait d'être reçue à son concours de professeur et ne reprendrait pas. Annette n'hésita pas et s'entendit répondre qu'elle acceptait. Tous les horaires lui conviendraient, elle commencerait quand on voudrait. Paul serait content, Éric aussi, elle en était sûre, et d'appuyer sur l'accélérateur de la Diane les perdus dans le grand tournant de la côte de Fridières. Le soir, on but un verre de cidre, on ne dirait rien en bas avant d'avoir commencé. En octobre, Martine annonça un congé de maternité pour un 3e enfant. Son mi-temps l'était à pourvoir, du pain béni, Annette ferait l'affaire. 6 mois au moins, sans compter les couches pathologiques et l'allaitement, et Martine se tâtait, hésitait, pour un congé parental, avec ses 3 si rapprochés, et la retraite, elle y pensait, Monique, à la retraite, dans 18 mois ou 2 ans, ça serait Byzance. Monique riait, lancée, tu mettrais des sous de côté, il en reviendrait, pas ton homme, tu changerais la Diane. Dans le Robert, au collège, Éric avait cherché Busté. Il n'avait trouvé que Buste et Bustier. Busté, cependant, était dans l'annonce qu'il avait découpée dans un vieux numéro du Chasseur français, le seul magazine auquel les oncles eussent jamais été abonnés pendant une poignée d'années, sur l'initiative incongrue de Nicole, laquelle, édifiée par l'exemple de la mimicatée, avait pensé les détourner de ce faisant de leur addiction télévisuelle massive. Deux ou trois douzaines de revues racornies étaient entassées dans un coin du cabanon des papiers où les oncles les avaient abandonnées. De guerre lasse, tant ce matériau de qualité incertaine, en tout cas inférieur à celle des pages dociles de la chère montagne, se montrait rétif à la flamme, retors et, pour tout dire, peu propice à l'auto-da-fé. Le chasseur français brûlait peu ou mal, et lentement, le feu l'y couvait sans conviction. Le tas brasillait d'à bas bruit, nauséabond et languissant, quoique dûment aéré par les oncles à bref coup.